VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Conakry, 17h à Brazzaville. Bienvenue à notre journal. On commence par la crise en RDC. Reprise des activités dans le pays après les violentes manifestations dans plusieurs villes, notamment la capitale Kinshasa, à l'occasion de l'expiration du mandat du président Joseph Kabila. L'ONU évalue à 19 morts et 45 blessés le bilan de l'agitation anti-Kabila du 19 et du 20 décembre 2016. Un bilan présenté aujourd'hui à Kinshasa par José Maria Aranaz, le directeur du bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme, qui a dénoncé l'usage excessif de la force contre les manifestants, notamment par la garde républicaine, la police militaire et l'Agence nationale des renseignements. On écoute M. Aranaz au micro de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Je voudrais rappeler les obligations des autorités de respecter les droits et libertés fondamentales. Nous sommes très préoccupés par les usages excessifs de la force par les agents étatiques, notamment la PNC, la garde républicaine, la police militaire et l'ANR. Nous avons documenté au moins 19 cas confirmés de morts par balle et nous sommes en train de vérifier encore des autres cas. Aussi, 45 personnes blessées et les chiffres très élevés des arrestations à Kinshasa, Lubumbashi, Matadi et Goma. Nous sommes aussi très préoccupés par les restrictions du travail des professionnels des médias, qu'ils ont été arrêtés ou empêchés de faire leur travail, même aussi pour les restrictions au accès et à l'information par notre équipe, soit des droits de l'homme et aussi des autres collègues de la MONUSCO.
José Maria Aranaz, du bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme en RDC. Au plan politique, les évêques catholiques congolais ont adressé ce mercredi un ultimatum aux hommes politiques du pays, les pressant de s'entendre avant Noël sur une voie de sortie de la crise provoquée par le maintien au pouvoir du président Kabila. La CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, n'est pas disposée à des prolongements indus et à des manœuvres dilatoires, a déclaré le président de la CENCO, Mgr Marcel Outembi, à la reprise des négociations arbitrées par l'Église. Il a ajouté que la CENCO tirera les conséquences qui s'imposent en cas de non-conclusion d'un accord avant Noël. Thierry Viocoulon, coordonnateur de l'Observatoire de l'Afrique australe et des Grands Lacs à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, estime que l'histoire risque de se répéter en RDC. Ses explications.
Il y a beaucoup de similarités entre cette situation et ce qui a été vécu dans les années 90. La première similarité, c'est évidemment Étienne Tshisekedi, puisqu'il était déjà présent et leader de l'opposition à cette époque. La deuxième grande similarité, c'est évidemment un président qui essaye de rester, de se prolonger au pouvoir contre l'avis de son peuple. Et la troisième grande similarité, c'est le fait que le régime de Mobutu était kleptocratique et que celui de Kabila l'est également. Cette situation, et du coup, ça le rend fragile, puisque la grande fragilité de la kleptocratie, c'est l'argent. Et on entre maintenant dans une période économique très difficile pour le régime congolais, comme le début des années 90 a été très difficile économiquement pour le régime Mobutu.
Thierry Viocoulon de l'Observatoire de l'Afrique australe et des Grands Lacs à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. RDC toujours, le jugement en flagrance de l'opposant Franck Diongo renvoyé au 23 mai. Le député de l'opposition n'a pas pu être jugé mardi à Kinshasa comme annoncé la veille après son interpellation. Des blessures graves causées par les sévices subies au cours de son arrestation n'ont pas permis qu'il comparaisse, ont indiqué ses avocats. Au micro d'Eddie Sango, les explications de Maître Jean-Joseph Mukendi à Kinshasa.
L'honorable Franck Diongo a été déféré à la Cour suprême de justice dans la procédure de flagrant délit. Et tenant compte de son état de santé fortement détérioré suite aux sévices graves qui ne lui permettent pas de comparaître, la défense a demandé que l'audience puisse être reportée et qu'il puisse être envoyé à l'hôpital pour être soigné. La Cour suprême de justice vient de rendre une ordonnance au terme de laquelle il autorise à aller se faire soigner et refixe la nouvelle audience au vendredi 23 mai. Et il faut d'abord qu'on puisse le faire soigner. Et après, quand le médecin estimera nécessaire, il pourra revenir pour entamer la procédure.
Maître Jean-Joseph Mukendi à Kinshasa.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, le président gambien Yahya Jammeh, qui conteste sa défaite à l'élection présidentielle du 1er décembre, a affirmé qu'il ne quitterait pas le pouvoir avant une décision de la justice sur sa demande d'annuler le scrutin. Les détails avec Nani Talani.
Le refus de Yahya Jammeh de respecter les résultats de la présidentielle du 1er décembre est un défi à la CEDEAO et au reste de la communauté internationale. À l'occasion d'une rencontre avec des délégués de la Fédération des barreaux africains, le président gambien a réitéré hier soir sa volonté de rester aux commandes à Banjul jusqu'à ce que la justice se prononce sur son recours contre la victoire du candidat de l'opposition. Il y a quatre jours, les membres de la CEDEAO réunis au Nigeria en séance extraordinaire ont annoncé que l'organisation reconnaît M. Barrow comme le vainqueur de l'élection et ont promis de le protéger et d'assister à son investiture le mois prochain. Outre la CEDEAO, l'ONU et des puissances européennes comme la France exigent le départ de Jammeh, mais ce dernier persiste et signe « Je ne serai intimidé par aucune puissance dans ce monde ». Je veux m'assurer que justice soit rendue. Par ailleurs, l'opposition gambienne a indiqué hier qu'elle privilégie une solution négociée à la crise actuelle, écartant toute menace de poursuite contre le président sortant.
Retour sur l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest 3 ans après, dans le cadre de notre série sur ce dossier à VOA Afrique. L'épidémie qui s'est propagée en Afrique de l'Ouest de fin 2013 à 2016, est la plus grave jamais enregistrée depuis que le virus Ebola a été identifié en 1976. Plus de 28 000 personnes ont été contaminées, quasi exclusivement en Guinée, au Libéria ainsi qu'en Sierra Leone. Et plus de 11 000 malades ont péri selon l'Organisation mondiale de la santé. 3 ans après le début de cette crise sanitaire sans précédent, comment vivent les survivants? Où en est la recherche scientifique? Le monde est-il prêt à faire face à la prochaine épidémie d'Ebola? VOA Afrique a mené l'enquête en Guinée et en Europe auprès de ceux qui étaient en première ligne de la lutte anti-Ebola. Notre correspondant en Guinée, Zakaria Camara, s'est rendu à Kissidougou pour voir quel était le niveau de suivi des patients guéris d'Ebola.
Tous les jours, Madame Thérèse Soropogui communique avec les guéris d'Ebola de Kissidougou.
Si par exemple c'est quelqu'un, c'est un guéri qui est malade, on met une équipe d'investigation sur le terrain. On oriente ce malade vers la structure la plus proche. Ça peut être un poste de santé ou un centre de santé. D'où on fait une prise en charge. Et si au niveau de ce poste, il ne peut pas faire la prise en charge, on oriente immédiatement au niveau de l'hôpital.
27 au total, ces anciens malades surveillent au quotidien leur communauté. Objectif, remonter toute information importante à la direction préfectorale de la santé.
Ils nous appellent pour nous dire s'il y a des événements. Ces événements peuvent être soit s'il y a un décès au niveau de leur communauté, s'il y a même des guéris d'Ebola qui tombent malades, s'il y en a, ils nous informent. Et s'il y a quelqu'un aussi qui est venu d'une zone affectée ou bien un étranger est venu au niveau de la communauté, il nous informe.
Si l'information concerne un guéri d'Ebola, il est ensuite conduit vers le centre le plus proche pour une prise en charge gratuite. Depuis sa sortie d'un centre de traitement, Farah, élève de secondaire, assure la surveillance dans son quartier.
On nous a octroyé des crédits et l'argent pour les appeler. S'il y a des cas de maladie, on les informe. S'il y a des cas de décès, on les informe. Et si on reçoit aussi des étrangers, on les informe.
Ebola avait mis à nu la faiblesse du système sanitaire guinéen. La maladie a fait plus de 2500 morts. Pour éviter toute surprise, des centres de traitement épidémiologiques sont installés dans tout le pays. Du retour de Kissidougou, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
Allemagne, pour terminer, la police allemande est à la recherche d'un Tunisien après la découverte de papiers d'identité sous le siège du chauffeur du poids lourd qui a foncé dans la foule lundi soir sur un marché de Noël à Berlin, tuant 12 personnes. Mais cela pourrait être une fausse piste. Deux suspects ont déjà été arrêtés dans cette affaire avant d'être relâchés. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.